Bonjour tout le monde. Salut Julien Garon-Carrier.
Bonjour, merci de me
Merci d'être
recevoir.
avec. Ça fait plaisir. C'est une excellente idée que tu as eue de me relancer pour qu'on fasse une chronique d'actualité. On en avait fait une l'autre fois sur les lois qui sont liberticides, les lois libérales.
Les deux et
Et
huit et neuf.
exactement, qui faisait pas mal jaser, surtout dans les médias alternatifs. On ne peut pas dire qu'on en jasait tant que ça dans les médias de masse.
Tout à
Mais
fait.
aujourd'hui, on va se permettre de dresser un bilan d'actualité que tu as déniché, beaucoup en lien avec l'actualité américaine et qui impacte notre vie canadienne ici, notre politique ici.
Complètement. Ben oui.
Avant, là, parce que bon, c'est pas la première fois que je te parle, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Prends donc un petit 30 secondes pour nous dire qui es-tu, toi, Julien?
Tout à fait. Ben, en fait, Julien Garon-Carrier, c'est un journaliste de formation qui a œuvré dans les médias traditionnels pendant un certain temps avant de frapper le mur de la désillusion, je dirais. J'ai participé à la fondation de Libre Média. Bref, ça n'a pas marché. Maintenant, je suis à mon compte. Média s'appelle Indocile Média. Donc, vous pouvez me suivre sur X. J'ai aussi un compte Telegram et sur Facebook. Ça, c'est assez nouveau. Là, j'essayais surtout par l'entremise de X, étant donné que je considérais cette plateforme comme étant prometteuse pour la liberté d'expression. Néanmoins, il y a une certaine forme de censure avec la manipulation de l'algorithme. Donc, c'est
Effectivement.
pourquoi j'ai essayé de diversifier toutes mes plateformes. Indocile Média, sur Telegram, sur X et sur Facebook. Donc, sur
C'est
Telegram,
vraiment
c'est @indocilm.
un contenu que j'apprécie beaucoup parce que justement, c'est un autre son de cloche de ce qu'on est habitué de lire, mais avec la même rigueur journalistique qu'on attendrait d'un média traditionnel, même si on s'entend qu'on a tous été désabusés là-dessus.
Ah oui.
Alors, je trouve ça super le fun que tu aies parti ce média-là. Puis aujourd'hui, bon, on va parler de 5 articles que tu as écrits dernièrement, tous des sujets que tu as traités, donc les gens pourront aussi aller compléter. Bon, on va en parler quand même pas mal en
Parfait, sur
profondeur,
le
mais ils
site
peuvent.
web, s'ils veulent les lire, là,
C'est
c'est
ça.
complètement gratuit pour tout le monde. Donc,
OK, mais tu as une
profitez-en de
formule
les faire là.
d'abonnement? Comment ça? L'abonnement, c'est juste pour soutenir ton média? Est-ce que ça donne
C'est
accès à
ça.
un contenu
C'est
exclusif
ça.
ou c'est.
Non, non. En fait, tous les articles sont gratuits. Si vous voulez prendre un abonnement, c'est pour me soutenir financièrement pour que je puisse perpétuer ma mission. Mais je vends de la publicité, c'est surtout comme ça que j'arrive à survivre. Mais tous mes articles sont gratuits, justement parce que c'est un travail de réinformation que je considère qui est nécessaire dans l'écosystème médiatique actuel.
Oui, particulièrement au Québec, là où les gens parlent pas anglais. Alors de là, l'importance de faire de la nouvelle en français de qualité. Je vais faire un survol des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. La table est bien remplie. On va parler d'un projet de loi américain pour qui, les juges démocrates soft on crime. Donc Trump s'en prend à ces juges-là qu'on pourrait finalement poursuivre en justice pour avoir libéré des criminels qui étaient récidivistes ou pluri-récidivistes. On en reparle tantôt. On a aussi Haïti qui perd son statut de protection temporaire aux États-Unis. Ça pourrait amener une vague migratoire massive au Québec et au Canada. De surcroît, ben, on s'entend que le Québec l'a connu en 2023 et ça pourrait être catastrophique pour reprendre les termes que tu me disais quand tu m'en parlais. On
Oh
va
oui.
parler de ça. Donc, deux situations là, de politique américaine qui ont un impact direct sur nos vies à nous. Et ensuite, on va parler d'un projet de loi qui s'appelle C3, projet de loi
En
libérale.
fait, la loi a été adoptée
Non,
le
elle a été
20
adoptée.
novembre dernier, donc c'est une loi, c'est la loi
Est adoptée, je pensais que c'était un projet. Bon, ça ne va pas
qui
du
a
tout.
refondu la notion de la citoyenneté.
Donc, c'est fait. Maintenant, être
Ouais.
Canadien ne veut plus rien dire. À peu près n'importe qui peut devenir Canadien en tapant des doigts. Donc, on va parler de ça, cette espèce de projet globaliste de Carney, qui est vitesse grand V depuis qu'il est au pouvoir. Ensuite, on va parler d'une autre situation dont on a très peu entendu parler. En Colombie-Britannique, une boîte de Pandore qui vient d'être ouverte où des terres ancestrales autochtones ont été reconnues prioritaires sur des propriétés privées. Donc là, c'est comme le début de la fin. Ça va être l'hécatombe dans pas long.
Si ça fait jurisprudence, ça va être excessivement dangereux pour,
Le Canada au complet.
ben, pour l'ensemble des territoires, canadiens sur lesquels il pourrait y avoir des revendications autochtones, en fait.
Puis Dieu sait que ça, c'est pas une situation qui est improbable. Et on va parler de l'impression du dollar. Donc, on a remis les presses en marche. On imprime des dollars canadiens. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une belle inflation qui suive.
Pas
Donc, on
encore,
va.
mais bientôt.
Ouais, on l'attend. On achète de l'or, on achète du Bitcoin. On va en parler tantôt. Alors, rentrons tout d'abord dans ce projet de loi américaine qui est pour les juges soft on crime. Peux-tu nous parler un peu de cette situation-là? C'est quoi ça, les juges soft on crime? Était-ce vraiment un problème aux États-Unis?
Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est le Congrès américain qui a introduit un projet de loi en date du 30 septembre dernier pour permettre aux individus qui auraient été victimes de crimes ou qui auraient subi un préjudice de la part de criminels, de pouvoir poursuivre les juges qui auraient été soft on crime. Ça veut dire qu'ils auraient, fait preuve d'un mépris intentionnel de la sécurité publique ou d'une négligence grave, soit en ne condamnant pas un criminel à une peine qui est raisonnable, c'est-à-dire à sa juste valeur. Par exemple, quelqu'un commet un homicide involontaire puis on lui donne 2 ans, moins un jour. On s'entend que ce n'est pas une peine qui est appropriée, donc la personne serait remise en liberté rapidement. Et aussi, pour les remises en liberté sous bail, voyons comment ça serait quoi ça? Pas sous probation, là, mais sous remise en liberté sous caution. Donc, disons, quelqu'un commet un crime grave et il est remis en liberté sous caution la journée même. Donc là, si ces personnes-là se retrouvent en liberté et qu'elles recommettent un crime, alors qu'elles sont en liberté et que cette personne-là qui a subi un crime n'a pas été assassinée et qui est capable de prouver qu'elle a subi un préjudice grave du fait que cette personne-là qui a commis un crime est en liberté, bien, la personne qui est victime du crime va pouvoir poursuivre le juge qui a remis en liberté le criminel qui a commis un crime grave. Donc, pour l'instant, ce projet de loi-là a juste été introduit au Congrès. Il ne chemine pas beaucoup, ce qui peut vouloir dire qu'il va tomber à l'eau, il va rester mort au feuilleton. Il reste néanmoins que cette volonté-là des républicains de mettre fin aux juges soft on crime, c'est pour mettre fin aussi à l'activisme judiciaire des juges démocrates. Tu sais, il ne faudrait pas se mentir, là, tout le courant woke a aussi été... introduit dans le monde de la justice à un point tel où on donne des peines en fonction de la couleur de la peau, en fait. Mm. On donne des peines qui vont varier en fonction de la couleur de la peau. Donc,
c'est drôle parce qu'on luttait contre le racisme. On dit Black Lives Matter, on dit qu'il faut comme vraiment... Et c'est tellement contradictoire parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que maintenant, la couleur de la peau n'a jamais été aussi importante.
Ben c'est ça, tu sais, c'est qu'en fait, on assiste à une forme de racisme inversé par rapport au racisme tel qu'on le connaissait auparavant. Maintenant, c'est une discrimination envers les hommes blancs les blancs en général. Et là, on peut penser au cas, au fameux cas de Irina
Zarutska, c'est ça, l'Ukrainienne qui a Irina été Zarutska, assassinée dans un autobus, en tout cas les transports en commun.
Tout à fait, c'est ça. À Charlotte, en Caroline du Nord, où son agresseur de Carlos Brown Jr. Avait lui-même été arrêté auparavant 14 fois, notamment pour des crimes violents. Donc, à un moment donné, une personne...
Qui a été remis constamment en liberté quand même 14 fois.
Mais il a fait aussi 6 ans de prison, ce gars-là. Là, t'sais. C'est un criminel violent. Donc, probablement qu'il souffrait de maladie mentale, on ne sait pas, là, mais t'sais, il se parlait tout seul, puis tout. J'ai vu
les images dans l'autobus,
il n'y avait pas de l'air tout présent d'esprit, là, tu sais, ce type-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est que si les gens sont trop dangereux pour être en liberté dans la société, c'est beau, là, le progressisme, le progressisme en général, de vouloir donner une chance aux communautés qui ont subi des préjudices ethniques à travers l'histoire. Mais une personne dangereuse pour la société, c'est une personne dangereuse pour la société. Puis si elle commet des crimes violents, bien, à un moment donné, il faut la garder en dedans pour arrêter, pour faire en sorte qu'elle arrête de nuire à la société. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'une personne qui a été arrêtée, condamnée à maintes et maintes reprises, se retrouve encore en liberté, commet l'irréparable, commet un meurtre complètement gratuit.
Complètement gratuit, parce que cette fille-là était juste assise là, puis elle s'est faite tuer.
C'est ça.
Elle n'a rien fait de mal, elle l'a pas provoqué, il n'y avait pas d'échange entre les deux. C'était vraiment totalement gratuit.
Fait. Donc, moi, je pense que les républicains au Congrès veulent envoyer un message avec ça. Peut-être que c'est une sorte d'intimidation politique envers les juges. Mm-hmm. Mais quoi qu'il en soit, on peut aussi faire un lien avec ce qu'on vit au Canada. Et toute la décennie libérale a été marqué aussi par des politiques soft on crime, notamment en 2020-2021, début des années 2020, où le code criminel a été réformé, notamment pour la refonte de la remise en liberté sous caution et aussi la suppression des peines minimales obligatoires pour certains crimes. Donc, on a des gens qui, auparavant, s'ils commettaient tel ou tel type de crime, devait nécessairement purger une peine minimale. Maintenant, ces peines-là ont sauté, donc c'est à la discrétion du juge, et il peut donner pour des crimes qui peuvent nous sembler graves, qui peuvent être, importants, il peut donner des peines complètement ridicules, travaux communautaires, emprisonnement à la maison, etc., ou encore des peines, des libertés, remises en liberté sous caution, ou... ce qu'on voit, en fait, c'est des gens qui commettent des crimes excessivement graves. T'sais. Puis j'avais fait une recension pour montrer à quel point, à travers les années, là, durant toute la décennie libérale, pour montrer à quel point ça avait été exagéré, là, cette réforme-là du code criminel.
Tu as été faire un recensement des crimes qui ont été...
j'en ai sorti 10, là, il y en a tellement. Okay. J'en ai sorti 10, là, j'ai fait un article avec ça cet été. Il y a des affaires absolument hallucinantes. Là, par exemple, un gang criminel de Pakistanais qui est arrêté à la frontière en Ontario avec des kilos de cocaïne de l'ordre d'une valeur de 50 millions de dollars. 17 personnes arrêtées et dans les jours qui suivent, tous remis en liberté sous caution.
Non.
On parle de crimes transnationaux. On parle de cartel de la drogue. Tu sais, as-tu déjà vu quelqu'un se trimballer avec 50 millions de dollars de cocaïne? C'est phénoménal. Ce sont de grands criminels.
Donc, parce que c'était des Pakistanais, on fait comme, on veut pas avoir l'air raciste,
J'en ai aucune idée. En fait, je veux dire, avec la réforme du code criminel, que tu sois blanc ou pakistanais ou whatever, maintenant, c'est la politique soft on crime.
Donc, on met plus personne en dedans? C'est quoi un peu le...
Ben, en tout cas, pour les remises en liberté sous caution, c'est assez inquiétant.
Il y en a plus qu'il y en avait, c'est ça?
Ce qu'on fait, si on garde pas du monde qui trimballe 50 millions de dollars de cocaïne, si on les garde pas en détention préventive pour pas que cette personne-là quitte le pays... ou qu'elles disparaissent littéralement du radar, mais qu'elles puissent être jugées, tu sais. Je veux dire, si ces gens-là, tu sais, ne sont même pas conservés en dedans, ben là, c'est quoi pour les crimes qui sont moins importants que ce trafic-là de cocaïne qui, à mon sens, est peut-être un des plus grands crimes avec le meurtre, là, tu sais, où, je veux dire, c'est beaucoup de cocaïne, c'est beaucoup d'argent, là, tu sais.
Oui, effectivement.
C'est capoté, là, tu sais.
Mais juste pour bien comprendre, ce genre de politique-là, est-ce qu'elles sont particulièrement soft, on va dire molle, pour le dire en français, sur les gens, les criminels qui sont racisés? Ou est-ce que c'est juste généralisé qu'on a vraiment assoupli nos politiques puis on met de moins en moins de monde en prison puis de plus en plus de gens qui sont libérés sous caution?
Ben écoute, moi, je pense que c'est généralisé, mais en plus, ce qu'on a vu cette année, c'est des peines adaptées en fonction de la couleur de la peau aussi au Québec. Okay. Notamment, il y avait une histoire qui est parue dans la presse là, d'un type, un noir, là, qui faisait du commerce... de la petite drogue, là, je pense que c'était du hashish. Puis il y avait eu un rapport présententiel comme quoi qu'on disait, ben là, tu sais, ses ancêtres à l'île du Prince-Édouard avaient subi des discriminations raciales, puis que ça l'avait pu avoir un impact sur lui. Donc, on va lui attribuer une peine adaptée
en fonction. Donc, on a vraiment joué la carte du fait de
son origine ethnique. Ça s'ajoute en plus. C'est-à-dire que c'est une construction avec plusieurs couches. Là, on a la couche soft on crime, mais on a aussi la couche woke. C'est littéralement des...
Le militantisme des juges.
C'est littéralement, en fait, un système judiciaire woke. Si tu adaptes les peines en fonction de la couleur de la peau des gens ou en fonction de leur origine ethnique, on n'a pas fini de donner des sentences molles aux gangs de rue, là, tu sais. Je veux dire, c'est pour ça que moi, je dis... cette loi-là, tu sais, de Trump, du Parti républicain, en fait, risque d'avoir un impact au Canada. Pourquoi? Parce que c'est la révolution nationale populiste et c'est le géant américain qui est à côté de chez nous qui se dirige dans cette voie-là. Et ce ne serait pas impossible que cela ait des impacts sur notre juridiction aussi.
De
à un moment
façon?
Donné, peut-être pas immédiatement, mais à un moment donné. Puis de toute façon, on voit aussi que ces politiques-là, soft on crime, ont été adoptées en Europe, notamment, ou en Allemagne, par exemple, une femme qui a critiqué son agresseur sur les réseaux sociaux se prend une peine plus importante que l'agresseur lui-même.
Ben
ce
non,
genre de choses-là.
Ça a eu lieu?
Oui, ce genre de choses-là. Pour un viol collectif de 10 personnes sur une adolescente, principalement des migrants afghans, je crois, 10 personnes sur une adolescente, la fille critique ça sur les réseaux sociaux, puis se prend une peine d'emprisonnement plus importante qu'un des participants
au
méfait.
On est dans un délire. Là.
Délire total. Les politiques soft on crime, là, c'est un crime contre l'humanité, en fait.
Mais tu dis que ça pourrait avoir, bon, les répercussions de ce projet de loi-là aux États-Unis pourraient avoir un impact ici. On n'est pas du tout dans les mêmes politiques, on n'est pas du tout avec un gouvernement conservateur. Comment ça pourrait impacter le Canada?
Pas pour l'instant, mais on sait que les Américains, c'est un empire, c'est l'empire américain, et ce sont les plus puissants en matière de géopolitique, en matière d'économie. Ils ont des rivaux nécessairement, la Chine, la Russie, les BRICS, etc., mais ce sont nos voisins et... on est comme la cour arrière des États-Unis. Donc, nécessairement, ce qui se passe aux États-Unis va avoir un impact chez nous, que ce soit au point de vue culturel, politique ou économique. Et éventuellement, cette révolution-là, nationale populiste, risque de se mettre, elle se met en branle. Tu sais, avec le deuxième mandat là, de Trump, là, c'est vraiment, c'est le moment. Ça avait déjà été entamé, mais là, ça se passe maintenant. Et ça va avoir des répercussions sur tout l'Occident. D'ailleurs, je vais sortir un article là-dessus bientôt. Dernièrement, je pense que c'est vendredi dernier, les États-Unis ont sorti leur stratégie pour la sécurité nationale. Où est-ce que c'est clairement assumé et affirmé? L'ère d'immigration de masse, c'est terminé. On veut redonner sa splendeur à la civilisation occidentale, etc. Donc, tu sais, tout ça, c'est affirmé. Tout ça, c'est assumé et notamment les politiques soft on crime, ça va prendre le bord avec tout ça, là.
Oui, c'est ça. En fait, on regarde ça aller, puis on se dit ça serait le fun d'avoir des politiciens qui ont le courage de faire ce genre de décision-là, parce que, bon, on va parler d'immigration tout à l'heure, mais ben, en fait, c'est ça, allons-y, parce que tout ça est intrinsèquement relié. Trump est très strict dans ses politiques sur l'immigration, et bon, il a poussé le bouchon encore un peu plus loin avec ce qui est en train de se passer par rapport à Haïti, là, qui va perdre son statut de protection temporaire, on peut le résumer comme SPT. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ce statut de protection temporaire-là? Qu'est-ce que c'était et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait avec ça? C'est quoi la situation?
En fait, les États-Unis ont accordé le statut de protection temporaire aux ressortissants haïtiens après le grand tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti, étant donné que ça l'avait causé une misère phénoménale pour ce peuple-là, donc en 2011. Et depuis 2011, ce statut-là a toujours été renouvelé, a toujours perduré dans le temps. Et ça l'a permis aux ressortissants haïtiens de vivre aux États-Unis depuis ce temps-là. Le statut de protection temporaire n'accorde pas la citoyenneté américaine. La seule chose qui permet, c'est de résider temporairement sur le territoire et d'y travailler. Donc, tu n'as pas de droit politique. Tu ne peux pas voter, tu ne peux pas être un citoyen, mais tu peux y travailler, tu peux y résider. Donc là, on considère qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 500 000 Haïtiens qui bénéficient de ce statut temporaire-là de protection. Les États-Unis, l'administration Trump a décidé que c'était terminé parce que l'administration précédente, Biden, a mis en branle une politique de frontière ouverte où, à la frontière sud, il y avait des gens qui rentraient par dizaines de milliers tous les jours pendant 4 ans. Et on considère qu'il y a peut-être eu entre 10 et 20 millions de migrants illégaux ou irréguliers qui sont entrés par la frontière sud durant le mandat Biden. Énorme. Donc, ce que fait Trump,
c'est qu'il renverse la vapeur.
Il ferme les frontières, il utilise ICE pour expulser les migrants illégaux. Et là, il vient de mettre un terme aussi au statut de protection temporaire des ressortissants haïtiens. Le problème avec ça, c'est que les Haïtiens, c'est un peuple qui émane d'une colonie française, qui parle français et qui a une forte diaspora à Montréal. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que ces Haïtiens-là, qui sont tous aux États-Unis à l'heure actuelle, s'en venir massivement vers le Québec pour éviter l'expulsion. Et l'expulsion, c'est pas, tu sais, je veux dire, ils font pas ça de manière complètement barbare, là. Les États-Unis leur offrent un billet d'avion pour rentrer en Haïti, leur donnent 1 000 $ américains et leur offrent la possibilité d'appliquer pour obtenir la citoyenneté américaine pour immigrer aux États-Unis de manière légale. Donc, si vous respectez les conditions de la révocation du STP, vous allez pouvoir appliquer pour devenir citoyen américain. Si vous ne le faites pas, par contre, vous allez vous faire expulser mani militari. Ce qui se passe avec ça, c'est que si les gens ne veulent pas retourner en Haïti, on les comprend, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas d'électricité, c'est dirigé par des gangs de rue, des gangs criminels. Je veux dire, c'est un hub aussi pour le transport de drogue internationale. Les cartels utilisent Haïti, les speedboats qui partent du Venezuela, qui s'en vont à Haïti, etc. Ça sert de tremplin, en fait, pour rentrer aux États-Unis. Mais les gens ne veulent pas nécessairement retourner là parce que c'est la misère. T'sais? C'est clair, on le comprend.
C'est pas les États-Unis.
Ce qui
là.
Se passe, c'est que le Québec ne peut pas non plus recevoir 500 000 Haïtiens.
Non.
C'est impossible. C'est impossible. Juste pendant la crise du chemin Roxham, qui a duré de 2017 à 2023, le Québec a reçu au-dessus de 100 000 migrants illégaux par le chemin Roxham en 6 ans. Par le chemin Roxham, au-dessus de 100 000. En fait, il y a un article de Radio-Canada là, qui rapporte les chiffres officiels de la GRC qui parle de 113 000 migrants illégaux qui sont rentrés pendant ces 6 années-là. Moi, je considère que c'est beaucoup plus parce que ça, c'est juste ceux qui ont été interceptés et enregistrés par la GRC par les services frontaliers canadiens. En fait, il y a du monde qui rentre par la frontière là, tout le temps, tous les jours. Si vous voulez trouver là, des passeurs pour partir de Montréal puis pour vous rendre à New York ou pour vous rendre de New York puis partir de New York puis vous rendre à Montréal, là, il y a des comptes Instagram qui offrent ces services-là avec des numéros de téléphone. Fait qu'il y a clairement des réseaux de passeurs, c'est connu, je veux dire, les autorités canadiennes le savent. Mais, tu sais, puis, je veux dire, ce qu'on voit, c'est une petite partie de ce qui se passe à la frontière. Ce qui se passe à la frontière canadienne-américaine, c'est une ignominie, c'est complètement capoté parce que c'est comme la pointe de l'iceberg, tu sais. La pointe de l'iceberg, le reste, là, il est tout dans l'eau, on le voit pas, tu sais.
Ouais.
C'est un peu ça qui se passe à la frontière.
Ben,
il y avait eu un reportage. De Rebel News. Il y a eu un reportage de Rebel News. Ils sont allés passer 2-3 jours à la frontière cet été. Ils ont mis des caméras de chasse sur une trail où ce que les migrants y passent. Ils en ont pogné comme une quarantaine là, en une nuit ou deux, tu sais, une affaire comme ça. Fait que ça, c'est pendant quelques journées en juillet. Là, tu sais, je veux dire, ça dure tout l'été comme ça, là.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, oui. C'est 40 personnes qui ont pogné en une nuit, mais tu sais, ça veut pas dire qu'il y a pas des nuits qui en rentrent 100, il y a pas des nuits qui en rentrent 10, il y a pas des nuits qui en rentrent 50. Mais tu sais, si ça se passe comme ça tout l'été, combien de personnes qui sont des migrants illégaux qu'on reçoit comme ça au Québec qui se dirigent vers la diaspora haïtienne à Montréal? T'sais? Parce que principalement, c'était des Haïtiens là, qu'on avait vus sur les caméras, puis ils avaient trouvé aussi des pièces d'identité Bell News qui étaient haïtiennes. Donc, c'est excessivement inquiétant, en fait, ce qui pourrait se passer à la frontière parce que le statut de protection temporaire des migrants, des Haïtiens, va être révoqué en date du 3 février. Donc, s'il y a un move à faire, là, si eux autres, ils prennent une décision puis ils se disent « Non, moi, je ne retourne pas en Haïti, mais en même temps, je ne peux pas prendre la chance de rester aux États-Unis pour ne pas me faire expulser par ICE. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais au Québec, ça parle français, j'ai de la famille, j'ai une tante à Montréal. Go! Je pars, je passe la frontière illégalement. » Donc, ça pourrait, c'est pas dit que ça va arriver, mais
non,
ça
mais
pourrait donner lieu
à une
migration massive.
Non, mais c'est sûr que c'est une équation facile, c'est 1 plus 1 égale 2, là, c'est pas tellement compliqué de faire le lien, sans forcément que ce soit les 500 000 Haïtiens qui vont faire ça, on peut s'attendre
quand même,
à ce qu'il y ait un pourcentage.
Quand même, ce serait 100 000 ou 50 000, on n'a pas la capacité pour accueillir ça, tu sais, toute cette population-là, tout simplement parce que le Québec vit depuis déjà plusieurs années une situation d'immigration de masse. Quand on regarde, je vais donner des statistiques de l'ordre d'envergure nationale pour le Canada, puis je vais revenir ensuite au statut du Québec. Au dernier recensement en 2021, le Canada comptait environ 37 millions d'habitants. Aujourd'hui, on en compte environ 42, autour de 41,5, un truc du genre. Alors qu'on sait très bien que les taux de natalité ne permettent pas la reproduction des générations. Donc, l'augmentation de la population au Canada est principalement due à l'immigration. Si de 2021 aller à 2024, parce que je n'ai pas calculé 25, oui, peut-être la moitié de l'année de 2025, aller à 2025, on a reçu 4,5 millions de personnes. Moi, j'appelle ça de l'immigration massive. Ça correspond à une augmentation de la population de 12,5%. 12,5%, c'est énorme. C'est énorme à l'échelle du Canada. Si on voulait faire une analogie avec la situation américaine, ça donnerait quelque chose de l'ordre de 42 millions environ. C'est comme si les États-Unis avaient reçu 42 millions de nouveaux habitants, de migrants sur leur territoire en 4 ans. OK, durant tout le mandat Biden. Alors qu'en fait, durant le mandat de Biden, ils en ont reçu entre 10 et 20. Puis là, c'est le branle-bas de combat. Hey, c'est partout, on met fin aux villes sanctuaires, on expulse tout le monde. Ils en ont reçu la moitié moins. Alors que nous autres, on en a reçu au prorata de la population le double, littéralement.
Mais personne
n'en
parle.
Il ne se passe rien. Il se passe fuck all, en fait. Là, il se passe absolument rien. Non seulement il ne se passe rien, mais en plus, notre frontière n'est pas protégée.
D'aucune façon?
Pratiquement pas. Là, c'est du show-off. La GRC a dit « Ah oui, on a acheté un hélicoptère. Là, ils font voler leur hélicoptère quand Rebel News vont filmer là. » Un hélicoptère, là, ça ne fait rien. Ça n'arrête pas les migrants qui passent. Puis ils envoient des patrouilles de la GRC. Mais en fait, il faut avoir écouté en comité parlementaire à Ottawa le directeur du syndicat national du service frontalier du Canada pour prendre conscience de l'ampleur de l'échec de la protection de notre frontière. Le directeur du syndicat, okay, il dit, en fait, mes agents, là, quand ils sont dans un poste frontalier, s'ils voient quelqu'un passer à 10 mètres du poste de manière illégale, ils ne peuvent même pas, ils n'ont pas l'autorisation de sortir pour l'arrêter. Vous nous dire à quoi ça sert d'avoir une agence frontalière si tu ne peux pas arrêter un migrant illégal qui passe illégalement à la frontière? Ben non, il faut qu'il appelle la GRC. Autre chose, ils n'ont tellement pas de budget.
Faut qu'ils appellent la GRC pour avoir l'autorisation ou pour que la GRC vienne?
Pour que la GRC vienne arrêter les personnes qui passent illégalement. Et là, ce qu'il disait, lui, c'est que ça peut prendre 2-3 heures des fois. Là.
Ben c'est ça, ils sont partis.
C'est comme, puis la personne n'est plus là, là. Elle attendait, il y a une voiture qui l'attendait l'autre bout de la trail. Là,
ben oui, c'est ça.
Avec un passeur qui l'amène à Montréal, puis c'est fini, là, ces gens-là, ils ont disparu. C'est à se demander, tu sais, y a-t-il une volonté politique derrière ça? En fait, est-ce qu'on mine nos institutions de manière volontaire? Tu sais, parce que, autrement dit, tout n'est qu'une question de volonté politique. Quand tu veux régler un problème, là, si tu es un politicien au pouvoir, tu passes une loi, puis tu donnes des directives à ton état administratif, puis en très peu de temps, tu peux le régler, le problème, là, tu sais, du cash.
Mais il y a des gens qui obstineraient ça. Il y a des gens qui diraient que c'est pas si simple que ça.
Ouais, mais du cash, ils sont capables d'en trouver, là. Le gouvernement du Canada envoie des 300 millions en Ukraine, pis ci, pis ça. Pourquoi qu'on le garde pas pis qu'on l'injecte pas dans l'Agence des services frontaliers du Canada? Là, ouais, mais il faut prendre le temps de former le monde, tatati, tatata. Ben, let's go, prenez-en. Recruter des agents à la retraite, du monde de la GRC, on a une crise. Il y a des migrants illégaux qui traversent notre frontière.
Ouais, ça devrait être géré comme une crise urgente.
Il faut réagir, tu sais, il faut faire quelque chose. Non, il se passe
rien.
Qui se passe. L'Agence des services frontaliers du Canada ne fouille que 1% des marchandises qui entrent au Canada par les ports ou par les postes frontaliers terrestres. Imagines-tu les gens qui peuvent passer, en fait, trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, name it. C'est une passoire, la frontière canadienne. C'est triste à dire, là, mais c'est une passoire.
Tu parles comité parlementaire de ce directeur du syndicat qui a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres lanceurs d'alerte qui dénoncent cette situation-là? Est-ce qu'il y a du monde qui essaie de se mobiliser pour dire qu'est-ce qui se passe-t-il?
Oui. En fait, il y a le lanceur d'alerte Luc Sabourin, avec qui j'ai travaillé. J'ai produit quelques articles avec lui, qui est un ancien agent, justement un agent subalterne de l'Agence des services frontaliers du Canada, qui, lui, est un homme excessivement intègre, qui a dénoncé la situation depuis plusieurs années à l'interne, notamment pour de la corruption, de l'abus de pouvoir, etc. On parle des hauts placés de l'agence, là. On ne parle pas des petits agents au poste frontalier. Là, lui, il a dénoncé ça. Donc, tu sais, si les top dirigeants de l'agence sont eux-mêmes corrompus, à quoi on peut s'attendre.
Quel type de corruption? Tu sais, quand tu dis corrompu, ils acceptent des... c'est quoi la corruption? C'est quoi leurs intérêts là-dedans?
OK, bien, l'intérêt, c'est tout le temps l'argent. En fait, t'achètes quelqu'un, tu le fais chanter, etc. Par exemple, il y a eu une dame qui travaillait pour le crime organisé qui piratait les ordinateurs de l'Agence des services frontaliers. Donc, par exemple, il rentrait des alertes pour des passeports trafiqués d'outre-mer ou des passeports volés d'outre-mer. Luc Sabourin faisait imprimer la liste, devait rentrer ça dans les services informatiques pour les envoyer à tous les postes frontaliers à travers le Canada. Il travaillait dans des voûtes sécurisées à Ottawa. La liste disparaît. Il part, il la met sur son bureau, il part 5 minutes, il revient, la liste est disparue. Donc, il y avait des taupes au sein même de l'agence. Après ça, il y avait... le type de corruption, c'est tout le temps l'argent, moi, je pense. C'est comme si tu me demandais de dénoncer le motif de la corruption de ces agents-là. Mais en fait, cette agente-là qui avait fait ça était couverte par la direction. Tu sais, Luc Sabourin est allé voir la direction, était couverte. Luc Sabourin, c'est un lanceur d'alerte à l'interne. Donc, il a utilisé le réseau de dénonciation à l'interne. Puis, au moment même où il utilisait le réseau à l'interne, ses patrons étaient au courant qu'il faisait la dénonciation. Donc, tu vois, c'est toute une sorte de collusion comme ça qui fait en sorte qu'ils ont voulu miner. Pourquoi? Parce que l'agence veut protéger son image. Parce qu'elle protège l'image aussi du gouvernement qui a mis en place le haut dirigeant de l'agence. Le haut dirigeant, là, c'est un haut fonctionnaire qui a été nommé par le gouvernement. Donc, lui, il est redevable au ministre qui l'a mis en place, si tu veux. Donc, il veut protéger son ministre, il veut protéger l'image de l'agence.
J'ai l'impression
je vais te donner un autre exemple. Ouais. Rapidement comme ça. Le journaliste canadien Sam Cooper a écrit un livre, Wishful Blindness, qui, en fait... dénote toute la corruption qu'il peut y avoir dans le système politique canadien, notamment par rapport à le trafic de drogue transnationale avec les triades chinoises dans le coin de Vancouver. Bon, ce type-là aussi est passé en comité parlementaire à Ottawa. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, bon, lui, il y a des sources, OK, au département d'État américain. Il y a des sources à la DEA. Donc, la DEA, c'est Drug Enforcement Administration américaine. Et il y a des sources aussi au sein de la GRC. Ces sources-là lui ont révélé, entre autres, qu'il était inquiète que des ministres fédéraux pouvaient influencer des enquêtes de la GRC ou tout simplement les arrêter. Arrêter des enquêtes de la GRC pour, c'est pas moi, trafic de stupéfiants. Donc, si on a des criminels transnationaux qui sont capables d'acheter des ministres, que des ministres mettent fin aux enquêtes de la GRC ou leur nuisent, est-ce qu'à ce moment-là, il faut s'attendre à avoir une agence des services frontaliers qui va faire son travail? Ben non, parce que c'est le ministre qui va nommer le haut fonctionnaire qui va être en charge de l'agence frontalière. Donc, le type qui va être en haut de le fonctionnaire qui va être au sommet de l'agence frontalière va lui-même être redevable au ministre et va mettre en application des politiques qui vont faire en sorte que ça va affaiblir l'agence plutôt qu'il la renforcer. Du moins, c'est une causalité possible. Mais d'un point de vue empirique, ce qu'on voit, c'est qu'on a des agences qui sont incapables, sont rendues inopérantes, littéralement.
Mmh. Oui, absolument. Avec tous nos systèmes sont en train de s'effondrer. Il n'y a pas vraiment d'agences qui sont fonctionnelles. Mais tu sais, en fait, je pense que ma question s'en allait plus dans le sens, puis je pense que tu l'as quand même dit, c'est... Est-ce qu'on peut se poser la question, puis tu l'as un peu dit, la question est rhétorique, est-ce qu'on laisse volontairement ces migrants-là entrer chez nous en sachant très bien les impacts que ça va avoir sur les politiques, sur en fait toutes nos infrastructures qui sont mises à mal? C'est comme si on met une pression énorme sur notre système, parce qu'après, c'est la crise du logement. Après, c'est le fait qu'eux qui rentrent illégalement, bien, ils ont quand même droit à notre système de santé qui va déjà terriblement mal. Je suis en train de faire un autre projet on the side, je parlais avec une docteure à la salle qui disait pratiquement tout le monde qui accouche, c'est des migrants. Des immigrants, ouais, en fait. Pas forcément des migrants, là, mais...
C'est capoté,
il n'y a plus de Québécoises. Il n'y en a plus des blanches qui accouchent.
C'est capoté, en fait. J'ai consulté les statistiques là, de la natalité plus tôt cette année. Là. Je peux te donner les statistiques pour 2024. 2025, je ne les sais pas. Là. Au Québec, en 2024, 30% des enfants qui sont nés étaient issus de deux parents nés à l'étranger. Donc, ils ne sont pas nés au Canada. Deux parents nés à l'étranger. Donc, on fait venir des populations. Donc, on subit l'immigration de masse. On fait venir des populations qui nous sont étrangères, principalement du tiers-monde, donc des populations africaines ou nord-africaines, donc des Arabes ou des Noirs, autrement dit. On les fait venir en masse et ces gens-là se reproduisent chez nous.
Oui, eux autres, ils en font des enfants.
Donc, c'est un changement de population, en fait, parce que quand on regarde la démographie, et tu sais, on pourra penser à ce que Guillaume Lepage a dit à Mathieu Bock-Côté. Donc, vous faites la promotion du grand remplacement, tu sais, à tout le monde en parle. Ben, je veux dire, est-ce que, tu fais-tu juste répéter des trucs, genre... De l'ordre de la vacuité intellectuelle. Là, genre, c'est une théorie du complot, donc c'est une théorie du complot. Ouais, non, mais attends un peu, là. T'es-tu capable de voir les chiffres statistiques? Tu sais, je veux dire, les statistiques sur l'immigration depuis le dernier recensement, OK, augmentation de 12,5% de la population canadienne, 4,5 millions de personnes. OK, si on regarde les statistiques maintenant sur la natalité au Québec, 30% des enfants qui sont nés en 2024 étaient issus de parents étrangers. Et pire que ça, si on dit un des deux parents né à l'étranger, cette statistique-là augmente à 40%. À 40%. Donc, d'un point de vue démographique, qu'est-ce qui reste du Québec? T'sais, qu'est-ce qui reste du Québec dans 10 ans? Qu'est-ce qui reste du Québec, dans 15 ans? T'sais, on dit oui, mais ils sont québécois, eux autres aussi. Sont venus au Québec, ils ont choisi le Québec, ils ont la citoyenneté canadienne sur le Québec. Je suis désolé, les immigrants, les gens qui viennent ici, leur loyauté va principalement envers leur communauté ethnique. Et c'est comme ça pour tout le monde.
Principalement, c'est ça, c'est une généralité. Après, il y en a qui s'intègrent, il y a des gens qui s'intègrent. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la capacité de les intégrer. Puis c'est aussi ce que Mathieu Bock dénonçait à Tout le monde en parle. C'est qu'il faut être capable de les intégrer. Puis en ce moment, c'est que les chiffres sont trop élevés. Puis ça amène à la question suivante qui va nous amener à la prochaine nouvelle. Ça veut dire quoi être Québécois? Ça veut dire quoi être Canadien? Plus ça va, plus c'est dilué. Plus on perd le sens de notre... Il n'y a plus de nationalisme. On dit qu'il y a une recrudescence du nationalisme québécois, mais je pense que c'est juste un peu le retour du balancier pour avoir été vraiment très, très loin dans l'autre extrême. Mmh. Mais selon moi, être canadienne, pour moi, ça ne veut plus dire grand-chose. Et là, ça nous amène à cette loi qui vient d'être passée le 20 novembre, que tu nous disais en intro. Mmh. La loi C3, peux-tu nous... J'aimais le fait que tu donnais un exemple concret dans ton article parce que ça aide à vraiment comprendre c'est quoi qui se passe là, qui ne se passait pas nécessairement avant. Peux-tu expliquer comment on devient Canadien en 2025?
Bien, je veux juste répondre avant ça avec ton affirmation sur la recrudescence du nationalisme. En fait, comme tu le dis, c'est un retour du balancier qui est tout à fait normal. Hein? Il n'y a pas un peuple qui va se laisser disparaître sans un regain de vie, sans un sursaut de vie. Et ce regain-là passe par le nationalisme nécessairement parce que c'est notre identité profonde en tant que Canadien-Français, en tant que Québécois de souche. Et ceux qui s'inquiètent de ça, c'est principalement l'écosystème médiatique entourant Radio-Canada et La Presse et Le Devoir complètement woke. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils publient des lettres ouvertes ou ils font des petites chroniques là, avec des intellos de gauche, là, mais fini, là, de gauche fini, la gauche structurelle, postmoderne, woke, là, où tout le monde est beau et gentil, là, tu sais, je veux dire, non, mais sont-ils capables de consulter les statistiques sur la criminalité, l'augmentation de la criminalité, les statuts sociodémographiques et ethniques des gens qui commettent cette criminalité-là? Peut-être
c'est
que l'immigration...
Hein? Les chiffres ne sont pas tellement publiés, justement, pour pas qu'on puisse faire trop facilement ces parallèles-là.
Peut-être que l'immigration de masse a... C'est pas juste peut-être, c'est assurément que l'immigration de masse a un impact sur la criminalité. On le voit en Europe. On le voit en Europe, c'est phénoménal, c'est capoté ce qui se passe là, c'est une hécatombe. Et si on ne veut pas qu'il se passe la même chose pour nous ici, au Québec et au Canada, il serait temps de mettre un frein à tout ça.
La criminalité a déjà augmenté.
Oh oui, oh oui, oui. Ben, on en a parlé la dernière fois quand j'étais venu sur ta chaîne, je pense, c'était en septembre. On avait abordé le même sujet un peu, mais oui, la criminalité a augmenté de manière significative. J'ai écrit des articles là-dessus sur Indocile Media pour aller les consulter. Si on revient à la loi qui a modifié la citoyenneté canadienne, c'est la loi C3. C'est intéressant, ça, et en même temps, c'est triste, c'est pathétique un peu, parce qu'on vide de son sens la citoyenneté canadienne. Ce que fait C3, en fait, c'est qu'elle va accorder la citoyenneté à toute personne née à l'étranger au-delà de la première génération. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est, par exemple, imaginons un migrant pakistanais. Tiens, j'aime bien l'exemple des Pakistanais. Un migrant pakistanais qui vient au Québec, fait ses études à McGill, reste ici 5 ans. Mais pendant son 5 ans là, qu'il est au Québec, okay, il obtient la citoyenneté canadienne. Mais après ça, il décide de s'en aller, retourne au Pakistan, il travaille là, fonde une famille, fait des enfants. Ces enfants-là vont être automatiquement canadiens. Par contre, ces enfants-là vont aussi pouvoir transmettre la citoyenneté canadienne. Donc, la citoyenneté, autrement dit, est vidée de son sens parce que quelqu'un né à l'étranger va lui-même pouvoir transmettre cette citoyenneté-là au-delà de la première génération. Donc, toutes là, les générations qui vont suivre d'enfants qui sont nés de parents canadiens à l'étranger vont pouvoir devenir canadiens aussi. Donc, autrement dit, ça fait des diasporas canadiennes à l'étranger qui se perpétuent à l'étranger. Donc, pour ça, il y a juste une condition qu'ils doivent remplir, c'est de venir au Canada, résider au Canada pendant un minimum de 3 ans tout au long de leur vie. Tu sais, peut-être que leurs parents vont les amener faire du tourisme pendant 6 mois, voir leur tante. Là, tu sais, bon, ben ça,
OK, c'est cumulatif.
C'est cumulatif. Check, tu sais, t'as fait un 6 mois. Puis là, après ça, ben, à l'âge adulte, ben, tu vas faire comme ton père, tu vas aller à McGill faire tes études, tu vas faire un 3 ans. Donc là, paf, automatiquement, tu as le droit de transmettre la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, tu l'as déjà. Tu es né de parents canadiens à l'étranger, tu as la citoyenneté. Mais toi, étant né à l'étranger, si tu veux pouvoir transmettre cette citoyenneté-là, si tu veux pouvoir la transmettre à ta descendance, tu dois venir sur le territoire canadien 3 ans. Donc, c'est capoté. Ça vide de son sens le fait de se dire canadien, puis ça permet de donner la citoyenneté à une multitude de personnes qui, normalement, ne l'auraient pas obtenue. Et ça mélange...
Qui respecte pas nécessairement le sens de ce que ça veut dire être canadien, parce que si t'es né au Pakistan, puis que t'es venu faire tes études ici, ou t'es venu faire du tourisme, t'as pu confirmer puis te donner ça à tes enfants. En fait, c'est juste pour avoir un passeport qui a bonne réputation. Je vois pas ça peut être quoi ta motivation autre que de vouloir garder un passeport canadien si finalement t'habites même pas dans le pays.
C'est ça, c'est tout le sens de la citoyenneté, puis c'est tout le sens de l'identité aussi, en fait. Tu sais, quand on accueille des civilisations étrangères sur notre territoire, qu'est-ce que ça fait? Ça engendre un choc des civilisations. Le choc des civilisations, il est réel. C'est Samuel Huntington en 1997. Je veux dire, chez nous, c'est moins proéminent qu'en Europe. Mais l'exemple européen, je veux dire, est le moindrement qu'on s'y intéresse, il est draconien, OK? C'est excessif. Et on a 10 ans de retard, nous, sur l'Europe, mais ça va nous rattraper. Mais de toute façon, ça nous rattrape déjà, tu sais, on le voit avec les mœurs étrangères qui s'installent, avec les prières de rue à Montréal, etc., les revendications de toutes sortes, etc.
Les camionneurs qui ne savent pas compter, conduire, je veux dire, qui font des accidents, on voit plein de vidéos de camionneurs
sikhs. Incroyable. Donc, vider de son sens la citoyenneté, tu sais, parce que en fait, qu'est-ce que ça veut dire être Canadien? Mais les Québécois, c'est nous, c'est les premiers Canadiens. C'est nous qui l'a fondé, ce pays-là, tu sais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est une culture, c'est une langue, c'est une civilisation. La civilisation, c'est quoi? Selon les Grecs de l'Antiquité, on considérait que la civilisation avait 4 facteurs pour être déterminée de manière juste, c'est-à-dire le sang qui coule dans tes veines. La langue, la religion et la manière de vivre. Et si un peuple rencontre ces 4 critères-là sur le même territoire, on peut dire qu'il forme une civilisation. Or, les Québécois, Canadiens français d'origine, partagent avec le Canada anglais 3/4, en fait, de cette détermination civilisationnelle-là. On n'a pas la même langue, on a du sang européen, on a la même religion, le christianisme, et on a principalement le même mode de vie, le mode de vie nord-américain. Donc, avec le Canada, c'est toujours possible de former civilisation. à 75%. T'sais, on ne s'entend pas sur tout, mais par exemple, une refonte constitutionnelle avec un fédéralisme asymétrique réel, où il y a un partage des pouvoirs conséquent, où le fédéral aurait pu le droit le pouvoir de dépenser, où on pourrait imaginer une refonte constitutionnelle où un aménagement serait beaucoup plus respectueux des champs de compétences du Québec, sans que le fédéral soit tout le temps en train d'empiéter. Ben, c'est pas impossible à ce moment-là parce qu'on émane de la même civilisation. Le combat est politique, en fait. Mais pour des peuples qui proviennent d'autres aires civilisationnelles, faire société avec eux, c'est difficile. C'est difficile. On parle la même langue, OK, parce que, bon, le recrutement de l'immigration au Québec est principalement axé sur la langue. On veut que ce soit des immigrants francophones, d'accord, mais si on ne partage pas la même religion et qu'on fait venir des gens qui sont des radicaux islamistes, si on ne partage pas le même mode de vie parce que ces gens-là veulent vivre en fonction des préceptes de leur religion, c'est-à-dire la charia, si on ne partage pas le même sang, bon, le sang, c'est sûr que c'est toujours quelque chose qui est plus... c'est plus touché, hein, on va se le dire, parce que ça implique la race, puis là, attention, on va se faire traiter de raciste, les gens ils ont peur de ça, mais il reste néanmoins que les critères déterminatifs de la civilisation des Grecs de l'Antiquité sont justes. C'est ça, une civilisation. Bon, mais quand la loi C3 accorde la citoyenneté à n'importe qui est né à l'étranger et la possibilité de le transmettre à sa descendance si elle vient résider 3 ans au Canada, moi, je me dis, c'est pourquoi ça, en fait, ça va favoriser encore une fois l'immigration de masse. Et les immigrants votent principalement pour les libéraux fédéraux, en grande majorité. Donc, ce que les libéraux sont en train de faire, en fait, c'est d'utiliser, instrumentaliser la citoyenneté canadienne pour s'acheter des votes, pour se payer des votes. Et en fait, ce qu'on voit, ce que j'anticipe, c'est qu'à terme, ils vont tellement avoir instrumentalisé le système politique canadien qu'il n'y aura plus d'alternance possible au pouvoir. Les conservateurs n'auront plus la force de prendre le pouvoir, la force politique de prendre le pouvoir, parce qu'ils n'auront plus le nombre.
Non, c'est ça.
Et ça va être un parti unique, les libéraux, qui vont diriger le Canada, peut-être des fois majoritaire ou minoritaire, avec un appui des gauchistes structurels du NPD, ce genre de choses-là. C'est excessivement inquiétant, en fait, tout ce que le gouvernement Carney et tout ce que le gouvernement Trudeau a fait auparavant.
Ça me paraît comme un symptôme, ce que tu décris, tu sais, qu'ils vont rester au pouvoir. En fait, c'est peut-être aussi anticipé, puis ils savent que les gens qui font rentrer dans le pays vont voter pour eux, mais... Moi, ce que j'observe, c'est vraiment l'agenda globaliste vitesse grand V où on dilue complètement ce que c'est un citoyen. On veut faire un citoyen globaliste, un citoyen qui s'identifie plus à le lieu où il est né, sa culture, sa langue, son identité. On l'a fait avec les Québécois. Moi, je trouve que ça fait déjà plusieurs décennies que c'est en branle, cette espèce d'agenda de détruire complètement la fierté des Québécois, de détruire notre culture. Moi, j'entends souvent à Montréal des Québécois qui disent « They speak in English together because it's cool to speak English ». Mais tu sais, ils se parlent avec le gros accent français québécois pis parce que c'est comme si on n'a pas cette fierté de parler notre langue, de bien l'écrire, de la maîtriser, de la lire.
Ça, c'est Montréalo-Montréal. C'est Montréalo-centriste. Là,
c'est
là,
sûr, mais moi, je viens de ça puis ça reste quand même que la moitié du Québec... géographiquement et concentré autour du Grand Montréal. Ouais. Donc, il y a quand même, c'est un phénomène qui est très généralisé, donc, au Québec. Puis, c'est sûr que si je vais en Abitibi-Témiscamingue ou si je vais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va probablement pas se parler en anglais. Mais ce phénomène-là, quand même, je l'observe, puis je vois maintenant que c'est en train de... C'est comme si c'est propagé partout au Canada où maintenant, être un Canadien, ça veut strictement rien dire. Ma soeur, elle habite dans le coin de Niagara. Il n'y a pas de blanc. On est en minorité visible. À chaque fois qu'on voit là, ce n'est que des Indiens.
Ça a été remplacé là, de manière phénoménale.
Ils sont multimillionnaires, là, parce que je veux dire, Niagara, on the lake, ce n'est pas des BS qui habitent là-bas. Là.
Mm-hmm.
Mais ce n'est pas des gens, c'est pas une richesse qui est canadienne. Pour moi, c'est probable. Bon, je suis sûre qu'ils ont fait leur argent façon louable.
Aussi, il y a un autre aspect par rapport à ça, avec toute l'instrumentalisation de la citoyenneté avec ces trois, c'est que ça va entraîner un nombre considérable de fraudes. Fraude à la citoyenneté.
Ben, c'est sûr.
Un nombre considérable. Parce que, tu sais, dans les pays du tiers-monde, là, obtenir des fausses identités, là, c'est probablement excessivement facile. En tout cas, ça, c'est peut-être un oxymoron, là, excessivement, probablement, mais en tout cas, bref, à mon avis, c'est facile d'obtenir des fausses pièces d'identité. Moi, je pense que plus on donne de lousse sur les mesures de contrôle à la frontière, pour la citoyenneté, plus on ouvre la porte à la fraude, plus on ouvre la porte au crime organisé. Par exemple, si on revient au statut TPS, là, tu sais, protection pour les Haïtiens, dans l'article, j'avais cité Kelly Sundberg, qui lui aussi est un ex-agent de l'agence frontalière, qui d'ailleurs avait donné une entrevue à Travis Danraj, le whistleblower de CBC. Et Travis Danraj, qui maintenant poursuit la CBC, en tout cas, bref, ça aussi, j'ai écrit là-dessus. En fait, ce que Kelly Sundberg dit, c'est que attendez-vous à ce qu'il y ait un tsunami de migrants à la frontière canado-américaine dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et avec lui, ce tsunami-là va apporter le crime organisé, nécessairement. Et qu'est-ce qu'on a vu quand le gouvernement Trudeau a laissé tomber l'obligation pour les ressortissants mexicains d'obtenir un visa pour venir visiter le Canada? Qu'est-ce qu'on a vu? Ben, une recrudescence de la pénétration des cartels mexicains au Canada, hein, qui se sont alliés avec les triades chinoises et les Hells Angels pour la fabrication et la dissémination du fentanyl partout au Canada et aux États-Unis. C'est ça qu'on a vu. Donc, plus on relâche les mesures sécuritaires, plus on laisse place à la fraude et à la criminalité. Et avec ces trois, c'est la même chose. Il va y avoir de la fraude à la citoyenneté, c'est immanquable. C'est prédictif, en fait.
C'est ça qui arrive. C'est pas difficile. C'est comme quand en 2020, on s'est mis à dire à tout le monde de fermer leurs entreprises, de rester cloîtrés chez eux, puis d'imprimer de l'argent, puis de donner 2 000 $ par mois à peu près tout le monde. C'était comme évident qu'on aurait une crise financière qui allait. Je suis pas fiscaliste, je suis pas économiste, mais c'est comme, il me semble que ça va mal aller. Puis là, l'inflation s'est mise à arriver, puis tout le monde était comme, ah mon Dieu, l'inflation, comme on l'avait pas vu venir. Mais je comprends pas. C'est hyper prévisible. Là, ce que tu décris, c'est hyper prévisible qu'on s'en va vers un maximum de chaos social, puis de la criminalité qui augmente, des systèmes qui s'effondrent, qui ne sont pas capables de soutenir tout ça. Puis je vois pas comment c'est pas fait de façon intentionnelle si ces lois-là sont passées. C'est quand même des gens qui ont des diplômes, qui prennent ces décisions-là. Ils savent très bien ce qui va en découler. Donc, donc on sait qu'on s'en va vers un maximum de chaos social. Ça veut dire que ce chaos social-là, qui est orchestré, va servir aux politiques qui sont en train de les mettre en branle.
Je le pense aussi, parce que tu sais, quand tu as une volonté politique, il faut arrêter de penser que les gens ne font pas exprès. Il faut arrêter de penser que les gens par incompétence. Écoute, quand tu as une batterie de fonctionnaires derrière toi là, qui te produit des rapports et des statistiques, quand tu prends des décisions, quand tu es un gouvernement qui prend des décisions, tu le fais par pure volonté politique. Donc, si tu mets en branle la dilution de la citoyenneté avec ces trois, c'est clair, tu le fais exprès. T'sais. Mais là, ils vont dire, oui, on faisait ça pour se soumettre à un jugement d'une cour de première instance de l'Ontario, tatatitatata. OK, fine, mais t'sais, c'est pas comme si on n'avait jamais vu le gouvernement du Canada à faire appel d'un jugement. Hein? Voyons donc, ça aurait pu traîner en cour pendant super longtemps, puis c'est pas dit qu'ils auraient gagné leur cause au final. Ils n'étaient pas obligés de mettre ça en place, cette mesure-là, là, tu sais, de la dilution de la citoyenneté avec ces trois. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils le voulaient.
Exactement, ça tombe pas des nues, là. C'est pas un hasard. Là. Alors, ça mérite quand même que les gens réfléchissent à quelles sont les réelles intentions derrière un gouvernement qui passe ce genre de politique-là. J'irais à
part. Tu peux pas dire ça, t'es complotiste, c'est l'eau.
Le monde qui m'écoute, il assume tous. D'ailleurs, j'ai pété ma coche cette semaine sur le terme complotiste.
Les Radio-Canada, la presse, là, puis le Devoir vont tomber sur ton entrevue, puis vont dire, voyons, c'est quoi ces urbulus-berlus-là? Ils sont complotistes, c'est des malades.
La soirée est encore jeune, risque de reprendre nos propos, ils aiment bien. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles de s'attaquer à des gens plus intelligents qu'eux. Malheureusement, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous, mais je pense qu'ils ne comprennent juste pas ce qui se passe. Pour ce qui est de... On va faire un petit saut dans notre ordre, parce qu'on vient de parler de pendant 2020 qui ont imprimé de l'argent, on a vu le résultat. Et là, ils viennent de rouvrir les presses et réimpriment des dollars canadiens.
La Banque du Canada l'a annoncé, en fait. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter des bons du Trésor, donc des bons du Trésor canadien. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que Le ministre des Finances du Canada va en appel d'offres sur les marchés. Et il émet des bons du Trésor, puis là, il dit « soumettez-moi des offres ». OK? Fait que là, toutes les grandes banques, les hedge funds, les individus particuliers, mais très riches, font des mises et elle va prendre le meilleur taux. Puis elle va dire c'est à ce taux-là que je vends mes obligations. La Banque du Canada, elle, ne participe pas aux enchères, mais par contre, elle va acheter des bons du Trésor au taux du marché. Donc, il y a une méchante différence entre la Banque du Canada qui achète des bons du Trésor puis un particulier ou une institution financière. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Banque du Canada, ce qu'elle fait quand elle achète des bons du Trésor, elle augmente son bilan en créditant le gouvernement. Donc, c'est la seule institution au Canada, en fait, qui peut émettre des liquidités. Donc, elle n'imprime pas de l'argent en tant que tel. Tout ça, c'est numérique. Oui, mais qu'elle fait, c'est qu'elle crédite le gouvernement avec de l'argent. Donc, c'est des dollars numériques, mais ça reste que c'est des dollars de plus qui sont ajoutés dans à la système. Circulation dans l'économie parce que le gouvernement les possède, il va les dépenser. Donc, ce qui va arriver, là, on ne sait pas encore combien, pour combien de milliards elle veut acheter des bons du Trésor parce qu'elle ne l'a pas annoncé. Normalement, c'était supposé être dit hier, là, le 9 décembre. J'ai fait un tour vite là, sur le site de la Banque du Canada. On n'a pas l'information. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle va acheter des bons du Trésor en augmentant son bilan. Donc, ça veut dire, en clair, ça veut dire imprimer du cash. C'est ça qu'elle va faire. Mais à chaque fois que tu imprimes de l'argent, à chaque fois que le gouvernement distribue massivement de l'argent par l'entremise de la Banque du Canada qui en imprime, comme on a vu pendant la pandémie, ça crée de l'inflation. Et ça, c'est l'école de Chicago avec Milton Friedman qui a théorisé ça, peut-être von Mises aussi. C'est-à-dire, plus le gouvernement va émettre des liquidités, plus ça va créer de l'inflation. Et eux considèrent que d'un point de vue structurel, c'est-à-dire les tenants de l'école de Chicago, là, de l'école économique de Chicago, considèrent que de manière structurelle, il n'y a rien d'autre que l'impression d'argent qui va créer de l'inflation. Donc, si les gouvernements se mettent à réimprimer de l'argent, ben, attendez-vous à ce qu'il y ait une dévaluation de la monnaie et une augmentation de l'inflation. Donc ça, c'est évident. Mais par contre, ce qui se passe avec ça, c'est qui bénéficie de ce nouvel argent-là? C'est pas toi puis moi, Hello. Moi, si je suis capable d'aller voir la Banque du Canada puis de lui dire « Parfait, t'imprimes de l'argent, passe-moi 1 milliard à 0,5% d'intérêt, puis tu sais, je vais te rembourser, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Ben, si je suis une banque, je vais prendre cet argent-là puis je vais la prêter à un taux d'intérêt plus élevé. » Donc, tu sais, puis là, les riches, ils vont s'en mettre plein les poches parce que les riches, ils vont avoir la capacité d'emprunter beaucoup d'argent à un faible taux d'intérêt, puis ils vont la dépenser dans l'économie. Ce que ça fait, c'est que ça crée une pression sur la demande. Mm. La demande de quoi? Ben, c'est les terrains, c'est l'or, c'est les actions, les propriétés, l'immobilier, etc., tout ce qui est susceptible de prendre de la valeur. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. L'effet Cantillon, en fait, c'est quand l'argent ruisselle à partir du haut de la couche sociale la plus aisée vers le bas. Mais par le moment où cet argent-là va avoir atteint les plus pauvres, c'est-à-dire le travailleur, le quidam du quotidien, l'inflation va déjà avoir embarqué. Pourquoi? Bien parce que les riches vont avoir tout acheté, créer une pression sur la demande, fait augmenter les prix, et là, l'argent ruisselle. Mais ben, tu sais, les riches s'enrichissent puis les pauvres restent plus pauvres parce que l'argent, le nouvel argent, eux, ils le voient, mais leur salaire n'a pas forcément augmenté pour qu'ils puissent s'acheter ça. Mais par contre, le prix de toutes les autres choses a augmenté. Et il y a un Américain qui, en 2024, lui, il a une maîtrise en économie de Harvard, il s'appelle Lawrence Leppard. Il a écrit le livre The Big Print et c'est phénoménal. Je veux dire, ce livre-là, c'est une perle. Il soutient la même thèse, en fait, que Milton Friedman. Il n'y a que l'impression d'argent qui crée de l'inflation. Et en fait, si on veut connaître le montant de l'inflation réelle, on a juste à évaluer l'augmentation du volume monétaire sur les marchés pour connaître le pourcentage de l'inflation. Donc, on nous dit tout le temps, « Ah, l'inflation, c'est 2, 3, 4, 5 % nanani, nanana. » En fait, c'est proportionnel au volume d'argent que les gouvernements injectent dans l'économie.
Donc, c'est beaucoup plus que 2-3%.
À chaque fois qu'il y a une crise.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est pas mal plus. Tu sais, c'est peut-être 30 ou 40 %. Je ne sais pas exactement le montant de l'inflation parce que les calculs ont été modifiés dans les années 80.
OK.
Ben oui, parce qu'ils se rendaient compte que s'ils prenaient l'inflation réelle en compte, ils se rendaient avec des taux stratosphériques. Et puis, je veux dire, si tu as une population qui se fait dire, ben là, l'inflation est de 40%, ils vont vouloir se rebeller, là.
Il faudrait
tu peux pas.
Pas,
là, faut que tu contrôles la population.
Mais le pire, c'est que ça a marché parce que dans les dernières années, on a vraiment vu le monde nous dire « Ah non, mais ça a augmenté juste de 3%, c'est pas si pire. » Je dis « Mais vous faites pas votre épicerie, genre, le poivron vert est rendu 4,99 la livre, je sais pas, là. » En six mois, genre, il a doublé. Enfin, je parle juste poivron vert, mais je pourrais parler de n'importe quoi.
La bûche de Noël qui a doublé de prix depuis 2018.
Mais c'est pas achetable, une bûche de Noël, voilà.
Juste à suivre The Food Professor, là... sur X, là, voyons, j'ai oublié son
je
nom.
Je connais
là.
Pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il analyse l'inflation de la bouffe, genre? Qu'est-ce
oh, ben, il est partout, lui-là. Là, tu sais, c'est le type de la chaire de recherche là, en alimentation, là, okay. Dans les maritimes. Là, mon Dieu, son nom m'échappe. Bref, mais tu sais, le gars, il est super bon. Il tient Substack, tu sais, puis il décortique tout ce qui a rapport à l'inflation alimentaire tout le temps. Mais, et plus encore, toutes les politiques, tout ça. C'est vraiment un expert, là, tu sais.
OK. Mais il est temps à dire, moi ça m'impressionne en fait ce que j'allais dire, c'est à quel point j'avais eu un débat sur X avec une ministre, je me rappelle pas son nom, puis elle m'ostinait que l'inflation était québécoise, ouais.
Okay.
Je me souviens vraiment plus de son nom, mais t'es assez active sur X, elle a peut-être, je sais pas, 20 000 abonnés, je sais plus, elle avait quand même pas mal d'abonnés, puis elle me disait... Elle me suit, en tout cas, mais on n'a pas grand-chose en commun, fait qu'elle doit me suivre parce que c'est bien, je ne suis pas juste du monde qu'elle aime, mais... Puis là, elle m'ostinait pour me dire que l'inflation n'avait pas vraiment touché les Québécois parce que les salaires avaient suivi, et là, les statistiques démontraient que les salaires avaient suivi. Je disais, ah oui, c'est cool, les employés d'Hydro-Québec puis les fonctionnaires ont été augmentés. Je te garantis que les travailleurs sur le plancher puis la petite fille qui travaille chez Tim Hortons, son salaire, il n'a pas augmenté, là. Puis nous qui travaillons dans le domaine de la culture, ils nous cheap. Plus ça va, plus les salaires baissent parce qu'ils n'ont plus d'argent dans la culture. Enfin, c'est comme, on est là où genre tout a doublé depuis 2 ans. Nos salaires sont moins élevés qu'ils l'étaient avant 2020. C'est comme, mais êtes-vous au courant que le genre un concombre anglais s'est rendu 3 piastres? Genre, je vais toutes les nommer. C'est mais ça. Moi, ça me fait un peu capoter.
Tout augmente sauf le salaire, tu sais.
Mais sur papier, parce que les fonctionnaires ont été augmentés de salaire, ça laisse croire que tout a suivi. Je suis comme, mais vous vivez vraiment au pays des Calinours, là? C'est pas ça la réalité,
elle va
là.
Défendre son bilan, tu sais, c'est une politicienne. Elle va défendre son bilan. Jamais ils vont vouloir admettre qu'ils ont tort. Tu sais, ils veulent
mais
pas
je pense même pas qu'elle en était consciente. Honnêtement, mettons, je vais lui donner le bénéfice du doute. Je pense qu'elle était tellement dans son monde à elle, avec ses amis à elle, puis avec ses petits amis qui sont peut-être policiers, puis qui travaillent, que tout le monde a été augmenté, qu'elle n'est pas proche du la plèbe, là, j'imagine, les gueux, là. Ceux qui n'ont pas été augmentés. Elle, elle les côtoie pas, ces gens-là. Elle les côtoie peut-être sur X, puis elle doit les considérer comme des trolls un peu archaïques. Mais malheureusement, la réalité n'est pas dans les chiffres. La réalité est sur le terrain. Moi, ça m'inquiète vraiment, cette inflation-là. Puis je suis inquiète pour les gens qui... Tu sais, le lait pour bébé. Là. Moi j'étais dans le pic de la pandémie, de cette inflation-là. Mon bébé était flambant neuf. Puis je me disais, les parents... non seulement, il y avait comme ça avait quintuplé la formule, mais en plus, il n'y en avait plus. Il y avait une pénurie. Fait que là, des fois... J'ai rencontré un moment donné à la pharmacie un gars qui partait de... Il a fait 20 minutes de route pour se rendre dans cette pharmacie-là parce que c'était la seule place qu'il y avait le lait que son bébé boit. Puis il était 75$ pour le petit cop, genre. Puis ça, c'est juste un exemple, mais je suis comme... À un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est la santé des gens qui va manger la volée. C'est que on n'aura pas le choix. Le coke est moins cher que quelque chose de santé. On va commencer... Veux pas, c'est ça qui arrive. C'est qu'on va manger des cochonneries qu'on peut s'acheter parce qu'il y a juste ça qui est achetable. Puis pendant ce temps-là, mais comme tu dis, ceux qui sont en haut, eux autres, ils mangent de la belle viande bio, nourrie...
C'est un problème financier qui est international, en fait. T'sais, on vit dans une économie de la dette, une économie du crédit. Quand on regarde la dette américaine, elle oscille autour de 37, 38 billions. Ça veut dire 37 000 milliards.
Ça veut comme plus rien
dire. Milliards,
t'sais.
Quelque chose comme ça. En anglais, ils disent des trillions, mais les billions puis les trillions, c'est pas la même chose en français puis en anglais.
Non, c'est
mais,
ça.
Mais ceci étant dit, tu sais, comment ils vont sortir... de cette dette-là, parce que, tu sais, si les taux d'intérêt augmentent pour contrer l'inflation, l'intérêt sur la dette augmente aussi, tu sais, donc il va falloir qu'ils payent ça, mais ils sont pas capables.
Ça donne l'impression qu'ils veulent créer un effondrement total du système financier pour réintroduire une crypto ou une monnaie numérique, puis d'avoir un contrôle absolu, je sais pas, là, je vais sonner comme une complotiste, mais on a l'impression qu'ils sont en train de mettre à mal vraiment l'économie volontairement.
Ben... il se passe de quoi avec les stablecoins, puis avec le Bitcoin, tu sais, avec l'administration Trump? Peut-être qu'il aimerait ça. Ça se peut que c'est pas impossible que dans notre vie, on voit un genre de reset monétaire. Mm-hmm. C'est pas impossible.
Je suis convaincu qu'on va voir ça.
Le système financier, c'est pas impossible, étant donné la quantité de dette des pays de l'OCDE, des pays de l'Occident. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables de. Tu sais, je veux dire, quand ton service de la dette est aussi important, quand ton service de la dette est aussi important que le budget que tu accordes à ton armée, par exemple aux États-Unis, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va péter. Là. Tu sais, ça va lâcher à un moment donné. Donc, à chaque fois, pour s'en sortir, ce qu'ils font, c'est qu'ils impriment du cash. Mais quand tu imprimes du cash, tu crées de la disparité entre les riches et les ultra-riches. Là. Tu sais, on parle des banquiers JP Morgan Chase avec Jamie Dimon, etc. On parle des riches, riches, riches. Là. Ils deviennent de plus en plus riches, de plus en plus puissants. Puis le reste des gens, le reste de la plèbe, tu sais, c'est une économie de la financiarisation. Ça, à un moment donné, ça ne pourra pas durer tout le temps.
Non, ça ne peut pas tenir la route. Ça va s'effondrer.
Les gens vont s'appauvrir tout le temps plus. Puis à un moment donné, ils n'auront plus rien à perdre.
Puis là, on va pas rentrer là-dedans, mais toute l'intelligence artificielle qui fait en sorte que les gens sont même plus capables de se trouver du travail parce que l'IA remplace. On va faire face à une crise.
On est qu'au début de ça. Là c'est toute l'école blanc. L'école blanc qui occupe des jobs d'entrée de base. Là. Je ne sais pas, moi, un comptable novice, un avocat même qui débute sa carrière, etc. Là. Toute l'école blanc d'entrée, de niveau d'entrée de base, là, vont se faire remplacer ultimement par l'intelligence artificielle et peut-être plus. En fait, un bureau d'avocat, au lieu d'employer 10 personnes, va en employer 2 et ces gens-là vont être des experts du droit et de l'intelligence artificielle.
Oui, oui. Non, mais on s'en va vers ça. Puis je pense que les gens ne prennent pas la pleine mesure de à quel point ça va impacter notre vie parce que ça va très vite et celle de nos enfants. J'aimerais ça qu'on termine en parlant de cette situation-là en Colombie-Britannique qui a eu lieu. Je pense que c'était l'été dernier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi qui s'est passé avec ces droits autochtones qui ont été cédés?
Ben, en fait, c'est le plus long jugement. C'est la plus grande cause, c'est la plus grande cause judiciaire qui a été traitée au Canada. Elle a duré 11 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la tribu Cowichan qui revendiquait des terres dans le Lower Mainland à Vancouver. À Richmond.
Aïe, c'est super cher ce coin-là en plus.
Et eux autres, tu sais, ils disaient que c'était des terres ancestrales Cowichan et la cour leur a donné raison. Et maintenant, c'est des terres où il y a des propriétés privées.
Ben oui, en fait, c'est des terres de la couronne. Il y a plein de Chinois qui habitent là.
Il y a des propriétés privées, il y a des individus qui ont des maisons qui ont été construites sur ces terres-là, qui ont un titre de propriété.
Il y a des centres commerciaux, il y a des commerces.
Un titre de propriété, tu sais, il y a plein de choses là, qui ont été bâties là. Et là, on reconnaît des droits ancestraux aux Autochtones sur ces terrains-là. Donc, naturellement...
Dans le concret, ça veut dire quoi, ça? Ils vont dire bye-bye tout le monde, puis on reprend vos maisons, genre?
Ben non. Non, parce que la tribu a dit... qu'ils ne voulaient pas toucher aux maisons, ne voulaient pas d'expropriation, mais il reste néanmoins que... Là, il y a un conflit pour le titre de propriété, tu sais. Il y a un conflit pour le titre de propriété. Et donc là, ça peut avoir un impact, par exemple, sur la valeur de ta maison. Si toi, tu viens pour renouveler ton hypothèque puis que là, il y a un conflit sur le titre de propriété, la banque ne veut plus te prêter d'argent parce qu'elle considère que c'est trop à risque. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu peux perdre ta propriété. Donc, ça l'engendre beaucoup d'incertitudes. D'une part, la reconnaissance de titres ancestrales autochtones sur, pas des parcelles de territoire où il n'y a rien, puis de la grande forêt boréale, là, mais des territoires habités par des gens qui ont des titres de propriété, des maisons qui ont été bâties sur ces titres-là.
Donc, c'est inédit, c'est une première. C'est ça qui s'est passé avant?
C'est une première au Canada.
Oui, c'est ça.
Il y a une partie des territoires qui ont été reconnus comme étant des territoires ancestraux Cowichan qui appartiennent à la couronne, mais il y en a d'autres qui appartiennent littéralement à des citoyens privés. Et c'est une première, ça. Si jamais, parce que là, ça a été porté en appel par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Si jamais ça fait jurisprudence, attendez-vous à voir des revendications de titres ancestraux autochtones explosé au Canada. C'est déjà le cas, d'ailleurs. C'est déjà le cas. Il y en a dans d'autres provinces. Donc, on a vu... excuse-moi, je vais prendre mon article, là, juste pour...
Mais j'imagine que ça a comme donné le goût à d'autres gens de faire la même chose.
Pas me tromper, non. Mais tu sais, au Québec, ce qu'on a vu, c'est la nation Kitigan, Zibi, Anishinaabe, qui revendique des territoires ancestraux sur une partie du parc de la Gatineau, en fait, à l'ouest de l'Outaouais. Et non seulement ils revendiquent une énorme partie de ce territoire-là, mais en plus, ils réclament 5 milliards de dollars à Hydro-Québec, à l'État du Québec et à la Commission de la Capitale-Nationale à Ottawa. T'sais, donc,
attends, mais à quelle fin? Pourquoi ils revendiquent cet argent-là à Hydro-Québec?
Ah, parce qu'ils considèrent que Hydro-Québec les a exploités tout le long qu'ils étaient sur leur territoire, puis que ça, c'est leur territoire, etc. Et eux, okay. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, ils ont lancé cette procédure-là judiciaire à la suite du jugement qui a été rendu dans les tribus Coetchan, avec les tribus Coetchan. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de momentum chez les peuples autochtones pour des revendications de la sorte. Or, que ça fait, c'est que ça attaque littéralement la souveraineté du territoire canadien. Tu sais, si on reconnaît qu'il y a des parcelles de territoire un peu partout au pays qui sont détenues par des tribus autochtones et même... potentiellement des droits.
Des terres appartenaient aux Autochtones avant.
Des droits sur le sol, ben c'est parce qu'il y a des terres, il y a des secteurs où il y a des traités où ils ne pourront pas revendiquer parce que les traités sont respectés. Mais le problème avec ça, c'est que non seulement on peut s'attendre à une pluie de revendications financières, monétaires, comme ils le font, là, la tribu Anishinaabe avec 5 milliards, mais aussi sur... des terres, qu'elles soient habitées ou non, et pour la possession du sous-sol. Donc ça peut nuire aussi à toute l'industrie de l'extraction minière.
Oui, mais on est déjà exploité par des compagnies chinoises.
Qui est importante pour l'économie. Donc ça peut créer d'énormes problèmes. Et là, c'est si ce jugement-là fait jurisprudence, moi je dis attention. C'est du jamais vu, c'est inédit, surtout parce que il y a des revendications qui sont faites sur des propriétés privées habitées avec des constructions, des maisons. Et là, cette tribu-là, Coetchan, en Colombie-Britannique, dit non, nous autres, on ne veut pas s'attaquer aux maisons, mais ça ne sera pas nécessairement toujours le cas. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, il y a les Wallastoqué qui revendiquent 50 % du territoire de la province.
Puis ben, ça, c'est en sûr cours que de... ça va arriver.
C'est en cours depuis 2021, cette affaire-là.
Ah, quand même, OK.
C'est fou, là, tu sais, ça
attends,
part...
Attends, mais j'ai deux questions. Premièrement, tu dis si ça fait jurisprudence, j'aimerais savoir que ça dépend de quoi, parce que moi, je pensais qu'une jurisprudence, c'était dès qu'un jugement était rendu, on considérait que c'était une jurisprudence.
Tu peux commencer il va faire jurisprudence s'il n'est pas révoqué. Parce que là, à l'heure actuelle, oui... Il y a un jugement qui a été rendu par une cour de première instance, mais ça a été porté en appel. Donc, c'est en appel, s'il est révoqué, il ne pourra pas faire jurisprudence. S'il est endossé en appel, bien là, il pourra toujours aller. Pour l'instant, il est comme un peu inapplicable, étant donné que les procédures judiciaires sont encore en cours. Mais ça va pouvoir aller, si c'est endossé en appel, ensuite, ça va pouvoir se rendre à la Cour suprême du Canada. Et ça peut prendre des années. Mais ultimement, si ça fait jurisprudence...
C'est le début de la fin.
C'est délétère, tu sais, parce que là, tu sais, les tribus autochtones ne sont pas folles non plus, là, ils veulent se faire une pièce, fait que là, ils vont se dire, bon, on va revendiquer tel territoire, on va dire que c'est nos ancêtres qui étaient là, puis on va poursuivre les gouvernements, puis on va se faire 2, 3, 4, 5 milliards, puis on va exploiter les ressources naturelles là-dessus en partenariat avec une entreprise privée, oui, mais tu sais, ça va revenir, tu sais, en fait, à être un territoire autochtone.
En même temps, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose que ces territoires-là reviennent? Tu sais, supposons, là, tu dis le parc de la Gatineau. Là, il n'y a pas personne qui habite là, c'est un parc privé, mais qui appartiennent aux Autochtones concrètement, qu'est-ce que ça change?
Bien, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il peut y avoir bien des passe-passe. Tu sais, il peut y avoir.
Oui, parce que c'est pas régi par le gouvernement.
On passe d'un statut de parc protégé où il n'y a pas d'exploitation économique dans le parc à un statut. Où les Autochtones vont pouvoir chasser sur ces terres-là en permanence, à longueur d'année, sans respecter les lois, par exemple, de l'État du Québec.
Pourquoi? Ils ont le droit de ne pas respecter les lois? Je veux dire, les lois s'appliquent à tout le monde, non?
Oui, mais pourtant, on a vu qu'il y avait des tribus Mohawks qui n'ont rien à voir avec la Gaspésie, qui allaient braconner de l'Orignal en Gaspésie et qui s'en tiraient comme ça, hein, parce que le gouvernement ne veut pas de chicane avec les Autochtones.
Okay, donc, okay.
C'est ça. Après ça, il peut y avoir de l'exploitation des ressources naturelles de manière abusive pour l'argent.
Mais en fait, si je peux me permettre, on exploite déjà nos ressources naturelles de manière abusive. On est déjà des caves comme... Tu sais, juste, je pense au documentaire True Story que tu as peut-être vu de Desjardins, Richard Desjardins, qui est vraiment bon, sur toute la... Ben là, c'est les compagnies minières en Abitibi, parce que lui, c'est sa région. C'est... Il y a beaucoup... tu as parlé de l'erreur boréale, donc toute la déforestation, les mines. Mais tu vois à quel point des compagnies étrangères viennent faire des trous dans notre cour puis partent en laissant comme mais, un territoire complètement dévasté, pollué. Mm-hmm. Puis bon, on l'a vu encore plus récemment, là, bon, le nom m'échappe, là, c'était pas en Abitibi justement encore, en tout cas, à Rouyn-Noranda. Mais il y a vraiment, pour moi, c'est déjà la situation, fait que je me dis, bon, ben à la limite, il y a peut-être une chance que ça devienne mieux si c'est des Autochtones qui gèrent, non?
En fait, une des grandes richesses du Canada, c'est de l'exploitation de ses ressources naturelles. On est un vaste territoire, tu sais, puis on a le potentiel de se développer économiquement de manière... Incroyable. Incroyable. On serait capable là, de ne plus payer d'impôts, de ne plus payer de taxes,
si
d'exploiter nos ressources naturelles à fond la caisse, là, tu sais, mais je veux dire, dans le respect de l'environnement. Là, mais tu sais, là, c'est que il y a tellement de réglementations à respecter, il y a tellement de bureaucratie, exactement. Il y a tellement de bureaucratie qu'on n'est pas capable de les exploiter adéquatement. Tu sais, je pense que c'est sur l'uranium ou dans le nord du Québec, là, tu sais, il était supposé avoir une mine à Sept-Îles, puis ils ont mis un moratoire là-dessus. Donc, tu sais, on empêche notre développement économique. Donc là, ce que ça fait, s'il y a des revendications autochtones sur des parties substantielles du territoire canadien, et au Québec aussi, là, nécessairement, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter une couche de complexité et que ça crée de l'incertitude pour les investisseurs. Donc, à terme, ce qu'on va faire, c'est que nos ressources naturelles vont rester dans le sous-sol. On n'exploitera plus, on pourra avoir des mines d'or, on pourra avoir, je ne sais pas moi, du cuivre, on pourra avoir de l'uranium, on pourrait exploiter la forêt de manière substantielle, tu sais, puis de le faire correctement, je ne sais pas. Moi, tu sais, on pourrait exploiter nos ressources naturelles puis être riche en tant que peuple. Mais là, c'est pas le cas. Puis, il y a trop de bureaucratie, puis on nuit à notre économie. Puis là, en plus, par-dessus ça, on viendrait rajouter la couche de complexité des revendications ancestrales autochtones où ce serait eux qui, en fait, viendraient gérer ce territoire-là. Tu sais. Donc, Ça peut toujours se débattre, là, parce que ces gens-là étaient là avant nous, etc. Ils ont un certain droit ancestral sur des terres. C'est pas impossible. Mm-hmm. C'est pas impossible. Est-ce que ça peut être sur la moitié du territoire d'une province? Non, c'est pas raisonnable. C'est là où on voit qu'il y a de l'abus. T'sais, en fait, ils s'essayent. T'sais, je veux dire, ça paraît évident pour tout le monde. Mais là où, si ce jugement-là fait jurisprudence, là où c'est inédit, en fait, c'est lorsqu'il y a des droits qui sont revendiqués sur des territoires habités, avec des titres de propriété privée et des maisons. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Hein, c'est à prendre avec parcimonie.
En même temps, on est tellement dans une espèce de une ère où on valorise... on est beaucoup dans la valorisation de la victime, puis là, on victimise tous ces peuples qui ont été bafoués par le terrible homme blanc. Puis bon, je le dis avec sarcasme, mais je reconnais très, très, très bien qu'il y a eu, ça fait partie de notre histoire, malheureusement.
On n'a pas été les pires hein, au Canada, puis au Québec, on n'a vraiment pas été les pires. En fait, les peuples autochtones étaient nos alliés.
Exact, surtout pas des Français.
Les génocides autochtones, c'est aux États-Unis que ça s'est passé principalement.
Absolument, oui, puis il s'agit de lire un peu là-dessus pour comprendre que les Français, justement, se métissaient avec les peuples autochtones, se mariaient, faisaient des enfants, ils embrassaient la culture autochtone. Donc, on était vraiment dans un respect. Non, on n'a pas, à part les Anglais, les autres, c'était une autre paire de manches. Mais c'est ça, je pense qu'on nous inculque pas, ça revient à la crise identitaire qu'on parlait tantôt, on connaît pas nos origines, tu sais, de l'Orimié, là, les gens savent pas que c'est un badass pirate. Ben non, c'est une rue à Montréal, puis c'est tout, là, tu sais. Mais c'est ça, on nous a pas enseigné notre fierté d'être qui on est, mais je pense que l'histoire, maintenant, est un petit peu comme parasitée, parce que là, il faut comme tout ordonner aux Autochtones. faire comme le tapis puis s'excuser d'exister. Mais en même temps, c'est pas si simple, c'est pas si noir et blanc que ça. Je suis pas en train de dire que je suis 100% en désaccord à ce qu'on leur redonne des terres, parce qu'en ce moment, on les a mis sur des réserves dans un coin de salon. Là, on leur a dit « allez-vous dans là », puis là, ils deviennent, là, vous paierez pas de taxes. Puis c'est débile ce qu'on leur fait vivre quand même. On leur a manqué de respect. On pourrait retrouver un équilibre où ils retrouvent des belles terres, où ils peuvent, oui, chasser si ça fait partie de leur façon de faire dans leur culture, quoique la majorité des Autochtones ne chassent plus. Là, je veux dire, ils ont tous perdu leur culture. Mais je pense que on est conscient quand même que ça ouvre une boîte de Pandore, puis c'est une zone tellement sensible avec des politiques qui tirent tellement d'un côté où on glorifie la victimisation, que ça risque d'être des décisions qui vont être plus émotives que rationnelles. Mais je pense en tout cas que ça prend une discussion clairement, et si ça fait 11 ans que c'est en cours, ça se décide pas comme ça, là. Mais c'est tout qu'un dossier.
Il faut jamais oublier non plus que la loi sur les Indiens, c'est le fédéral qui a fait ça. C'est pas l'État du Québec.
Non, hein? C'est ça.
C'est une loi fédérale. Ça a été imposé par Ottawa. Ensuite, tu sais, tout ce qui relève des idéologies de la restitution historique, là, c'est bien beau, mais en fait, c'est passé. C'est derrière nous. T'sais. Fait que là, soit on essaie de s'entendre, on trouve un terrain d'entente pour la situation actuelle, aujourd'hui, et ce qui est viable pour tous les partis, donc on négocie de gré à gré, mais on ne peut pas redonner la moitié des terres d'une province sur la base de revendications ancestrales autochtones. C'est capoté, ça. Ça se fait pas. C'est impossible, en fait.
Ouais, puis ça doit être très insécurisant pour les gens qui habitent sur, tu sais, à Richemont, puis qui apprennent ça, là. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là?
Ah, c'est sûr que les gens en Colombie-Britannique, ça ne vise pas la moitié de la province, ça, c'est au Nouveau-Brunswick, mais, tu sais, les gens à Richmond, à Vancouver, dans la région de Vancouver, je veux dire, c'est une catastrophe pour eux autres, là. C'est une catastrophe.
Je veux corriger, c'était pas, je voulais dire d'Iberville, j'ai dit Delormier, c'était d'Iberville, qui était un corsaire. Si les gens, ça les intéresse, je vous invite vraiment à aller lire là-dessus. C'est super passionnant d'en apprendre plus sur notre histoire, puis c'est pas l'école qui nous l'enseigne. On va finir là-dessus, puis on a quand même réussi à... J'avais dit 20 minutes par sujet, on a été bon, je trouve. On a touché beaucoup de choses. Je te remercie pour ton temps. Merci pour nous avoir informés.
Ça fait plaisir, Hello. Je suis content de tenir à ton micro.
Yes,
j'invite tout le monde à me suivre sur Indocile Media, sur X, sur Telegram, sur Facebook. Je suis très actif sur X, @ Indocile Media, Julien Garon-Carrier. Je publie tous mes articles sur X. Venez faire un tour sur mon site, il y a de l'information en masse. J'ai genre 110 articles décrits en 6 mois.
Bravo,
Je publie à peu près aux 2 jours. C'est des sujets recherchés en profondeur, puis c'est des trucs qu'on voit pas nécessairement dans les médias de masse aussi.
Puis on peut prendre l'abonnement pour ces 49 par mois, qui est un prix tout à fait raisonnable. C'est le même prix que je charge pour ceux qui choisissent de me suivre. C'est très rare que je parle de mon abonnement, mais oui, tu sais, les gens peuvent faire le choix de nous soutenir. Puis non, je comprends, tu sais, on n'est pas toujours capable de donner du contenu exclusif, puis tu sais, des avantages à l'infini, mais tu sais, si vous appréciez le contenu qu'on fait, puis vous êtes conscient que ça prend cette voie-là dans l'espace public au Québec, ce petit 6,49 $ par mois que vous donnez à Julien ou à moi ou à un autre média que vous allez décider de supporter, ça fait vraiment toute la différence. Donc, je vous invite à indocilemedia.com ou encore, je peux même plugger le HelloVeuxSavoir.com aussi. Vous pouvez aller voir pour votre abonnement. Et ben merci à tous de nous avoir écoutés. Merci d'être présents. Partagez, ça fait la différence. Je le dis peut-être pas assez souvent, mais tu sais, vous vous demandez comment nous supporter, vous trouvez que vous payez à gauche, à droite, puis vous voulez peut-être pas forcément vous investir financièrement. Partagez, là, ça fait toute la différence. Ça aide l'algorithme, ça aide à contrer la censure. On parlait en entrée de cette entrevue-là que oui, il y a une censure au niveau des algorithmes sur X, alors qu'on pensait que c'était le Klondike puis que ça allait être extraordinaire sous Elon Musk. Mm-hmm. C'est pas du tout ça la situation. On rejoint très, très peu notre audience, donc le partage fait vraiment une différence. Si vous jugez l'information pertinente puis vous voulez qu'elle circule, vous pouvez contribuer en la faisant vous-même circuler. Voilà, je finis là-dessus. Merci Julien, merci à tous, puis on se revoit très bientôt.
Merci à toi, au revoir. Ouais.